Missionnel. Alors, ça rentre très bien dans l'interpellation de l'EPEA, hein, qui est une communauté qui interpelle, vers une église missionnelle. Alors, j'ai fait un constat, n'ayant pas du tout participé aux travaux du GARVI, de la réécriture de la vision, et donc ce travail qui a duré 2 ans, bien sûr avec la Covid, eh bien, a donné un résultat que j'ai analysé, puisqu'on Laurence me l'a communiqué, et voilà ce que j'ai constaté. Hein, donc c'est un constat de ce que vous avez produit en tant que communauté. Ça montre que l'appel de l'EPEA évolue. Hein. Vous savez que l'appel, c'est l'intention de Dieu pour nous, hein. Et cet appel, eh bien, il a été reconsidéré par la nouvelle génération qui va prendre le relais. Et cet appel évolue vers une église missionnelle. J'avais entendu parler d'église missionnelle, parce que Luc Maroni porte cette vision depuis pas mal d'années, mais je ne me suis jamais vraiment intéressé. Voilà. Et là, donc, j'étais obligé de m'y intéresser pour vous en parler, puisque le nouvel appel est orienté vers cette direction. Alors là, c'est ce que vous avez produit, hein. Donc vous avez écrit que l'appel, c'est voilà, être une communauté d'hommes et de femmes, toutes les générations, toutes nations, croyant en Jésus, animé par l'amour, libéré par l'amour de Jésus et dépendant de lui, enraciné dans la parole, dans l'amour de Dieu et des autres, invitant chacun à connaître Dieu personnellement. Alors, jusqu'à présent, c'est assez général, hein, comme toutes les églises ont cet appel. Mais là, voilà, c'est déjà plus spécifique, hein, donc que cette communauté soit un lieu d'accueil, de refuge, de guérison pour ceux qui ont besoin d'être protégés, restaurés, réconciliés avec Dieu et leurs prochains. Voilà. Et un dernier sous-élément de cet appel, c'est qu'il témoigne par ses fruits pour la communauté, pour la cité. Vous verrez que dans cet appel, vous n'avez pas discerné l'aspect des familles, pas pour autant que l'Église ne va pas s'en occuper, mais en tout cas, ça n'y est pas, mais c'est orienté vers une Église missionnelle. Alors, l'Église missionnelle, c'est quoi? Donc là, je suis obligé de vous donner quelques définitions. C'est un néologisme, c'est-à-dire que vous ne le trouverez pas dans aucun dictionnaire, c'est-à-dire néo veut dire nouveau, un nouveau mot. Un nouveau mot qui a été inventé. A été inventé quand? Eh bien, il n'y a pas très très longtemps. Donc, il faut expliquer ce mot, puisqu'il n'est pas accessible. Bien sûr, vous trouverez des articles sur l'Église missionnelle, mais pas dans le dictionnaire. Alors, bien sûr, missionnelle est attaché au mot mission. Et la mission que Jésus a donné à son Église, que nous avons en tant que disciples, en tant qu'Église, eh bien, on peut le comprendre de deux manières. Et c'est là que l'aspect missionnel va apparaître. La première manière, c'est de le comprendre comme une action missionnaire, c'est-à-dire faire la mission. Donc, c'est une obéissance par l'attention au faire de la mission, hein. C'est-à-dire qu'on définit la mission, il faut faire ça, il faut faire ça. Pour l'instant, notre mission, c'est établir des communautés de personnes libres dans leur personnalité, c'est prier et évangéliser comme des ambassadeurs. Donc c'est faire cela, vous voyez, c'est se focaliser sur ces choses à faire. Et donc une obéissance à l'attention offerte de la mission nécessaire à construire l'action. Comment on va agir à partir de ce que Dieu nous demande de faire. La deuxième manière de comprendre la mission, c'est d'avoir une vie missionnelle. Donc c'est une manière d'être, non pas du faire, mais une manière d'être. C'est d'être en mission permanente. C'est une façon de vivre l'évangile du royaume. Voyez-vous, il y a quand même une nuance, hein, je vais essayer de vous faire comprendre cette nuance par des personnes qui ont réfléchi et l'histoire de cette église missionnelle, en fait, cette vision missionnelle, c'est donc une manière d'être. On pourrait reprendre les choses d'une autre manière, au travers de visions. L'Église missionnaire pourrait, poursuit cette vision du monde. Alors, je vous la lis. Entrer dans la mission. Donc, vous savez, mission, c'est envoi. Entrer dans l'envoi que Christ a donné à son Église, à savoir vivre et proclamer l'Évangile au monde. Voilà. Et c'est depuis la nuit des temps, depuis l'Église primitive, que l'Église vit cette proclamation d'Évangile. Et on va bien sûr continuer à proclamer l'Évangile. Mais c'est une vision missionnaire, c'est une Église missionnaire. Alors l'Église missionnelle pourrait traduire sa vision du monde de la manière suivante, c'est vivre en poursuivant la mission que Dieu a donnée à son Fils. Donc Jésus-Christ, qui est venu pour sauver l'humanité, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a, etc. Donc Jean 3, 16. Donc Jésus est venu en mission avant de nous envoyer, nous, en mission. Nous sommes disciples de Jésus. Voilà. Donc vivre en poursuivant la mission que Dieu a donnée à son Fils, à savoir racheter ou sauver l'humanité et lui redonner son sens originel, qui est de retrouver la relation avec Dieu, comme Dieu l'a établi dans Genèse chapitre 2, où il a établi Adam et Ève, l'origine de l'humanité, dans cette relation avec lui, relation permanente, relation profonde, relation quotidienne, relation à chaque instant, qui a été perdue par le péché, et que nous avons perdu, et que nous retrouvons en Jésus. Voilà, donc l'Église missionnelle poursuit une vision qui n'est pas de faire la mission, mais de vivre en poursuivant cette mission. Oui. Et vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi il y a cette différence de vision et comment elle se traduit dans la pratique. Alors, pour cette vision missionnelle, bien sûr, il faut d'abord se poser la question, quels sont les fondements bibliques ? Est-ce qu'il y a un fondement biblique pour passer d'une vision à l'autre, de la vision missionnaire à la vision missionnelle ? Eh bien, il y a trois éléments, trois passages bibliques que je ne vais pas reprendre ce matin, puisque ça fait l'objet de mon introduction il y a 15 jours. C'est 1 Pierre 2, 9, Exode 19 et Ésaïe 43. Pierre, dans l'épître de Pierre, il y a une affirmation qui est « Vous, par contre, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté afin d'annoncer les vertus. » Vous voyez, donc là, il y a une affirmation de ce que nous sommes, notre identité. Exode 19 retranscrit les paroles de Dieu à Israël, donc à Moïse, au mont Sinaï, lors de l'Alliance, qui dit « Vous m'appartenez en propre si... » vous respectez ses commandements. Donc là aussi, il y a une affirmation, la constitution du peuple au mont Sinaï. Et Ésaïe 43, c'est le temps de l'exil. Vous savez que comme Israël n'a pas respecté les commandements, la parole de Dieu, eh bien Dieu l'a envoyé en exil pour le faire réfléchir et le déporter. Et c'est là que Ésaïe déclare « J'aurais mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la terre aride pour abreuver mon peuple, mon élu. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. » Là, c'est à la sortie de l'exil. Bien sûr, ils vont publier les louanges une fois qu'ils ont compris qu'ils n'étaient pas fidèles à l'Alliance. Donc là, c'est un fondement biblique qui est très clair sur l'aspect missionnel. Vivre la vie au quotidien et pas juste faire la mission, peut-être à certains moments. Non, c'est être en mission permanente. Alors, il y a une réflexion théologique. La réflexion théologique... Bien sûr, il s'appuie sur la parole, mais ce sont des actions à partir d'un certain nombre d'expériences. Alors là, nous avons deux personnages que je vais vous proposer. Vous pouvez creuser vous-même hein, sur ces deux personnages, j'ai pas le temps ce matin de tout vous décrire, c'est tout d'abord Leslie Newbegin, hein, c'est un Anglais, Leslie Newbegin, qui est à l'origine de cette réflexion sur l'Église missionnelle après la guerre. C'est après la guerre, dans les années 50, hein, qu'il a eu cette réflexion. Alors, Leslie Newbegin, il a passé des années en tant que missionnaire en Inde. Et lorsqu'il revient sur sa terre natale, en Grande-Bretagne, il réalise, donc une vingtaine d'années après, il a dû partir après la guerre et revenir dans les années début 70, lorsqu'il revient en Grande-Bretagne, il réalise que l'environnement y est aussi missionnaire qu'en Inde. C'est-à-dire qu'il a retrouvé 20 ans après, c'est assez rapide, hein, 20 ans après la Grande-Bretagne, être dans l'état de l'Inde, au niveau chrétien. Oui, on y trouve encore beaucoup de chrétiens individuels, mais le christianisme n'était plus l'influence dominante de la culture. Voilà son constat. Donc il est parti de ce constat. Donc vous voyez, ce n'est pas un constat français, mais un constat anglais qui est vraiment ancré dans le christianisme. Et pourtant, voilà, Leslie Newbegin a été vraiment choqué. Alors, il a souligné, donc, à partir de cette analyse qu'il a faite, mais pourquoi, en l'espace de 20 ans, il y a eu un tel changement dans ma propre nation qu'il a envoyée, justement, en mission en Inde. Eh bien, il a souligné une division entre la vérité publique et la foi privée. Nous, en France, on n'est pas trop étonnés parce que ça fait longtemps que cette division a été établie constitutionnellement hein, en 1905, donc au début du siècle dernier. Il y a eu cette solution qui a été proposée par nos législateurs, hein, donc nos députés, etc., à l'Assemblée, qui ont voté la loi en 1905 de séparation entre l'Église et l'État, entre l'aspect public et l'aspect privé. On fait une différence entre le public et le privé. Alors, je ne vais pas rentrer dans la genèse hein, de cette orientation. Beaucoup de protestants l'ont soutenu, cette loi. Mais c'était surtout pour combattre le catholicisme. La France a été catholique depuis Clovis, donc depuis des siècles. Et le catholicisme avait la main sur la nation en imposant cette religion catholique. Et donc la loi 1905 a vraiment libéré le protestantisme, la capacité à voir le protestantisme, mais aussi d'autres religions, s'exprimer. Parce que c'était toujours réduit par l'Église catholique à un manque de liberté. D'ailleurs, voilà, il y a eu énormément de combats à ce moment-là. Donc je reviens à l'Angleterre, puisque Leslie Newbegin est anglais, et il est à l'origine de cet néologisme missionnel dans les années 70. Alors pour introduire l'Église occidentale dans une nouvelle dimension missionnaire, hein, il fallait re-christianiser en fait l'Occident qui a perdu voilà toute cette culture qui l'a portée et pour lesquelles on est bénéficiaire aujourd'hui de toutes les avancées de la chrétienté dans tous les domaines et il y a une déchristianisation galopante qui s'est faite entre la fin de la guerre et les années 70. Et voilà ce qu'il déclare. Il déclare quelque chose qui paraît évident, mais il faut le traduire après dans des actes. C'est l'Évangile doit être une vérité publique et visible. Dans le monde, par l'engagement de chrétiens, alors le moyen, c'est comme un modèle du Christ serviteur qui donne sa vie. Donc c'est plus tellement comme au 19e siècle où on annonçait l'évangile dans les églises et les gens venaient. De toute façon, maintenant, ils ne viennent plus. Vous avez beau les inviter. Bon, bien sûr, au compte-gouttes, ils viennent. Mais il faut aller les voir dans le monde pour leur transmettre le message du Christ, mais en tant que serviteur, c'est-à-dire qu'on doit servir. Et c'est ce service, qui est un service sacrificiel, si vous voulez, qui va à nouveau réévangéliser le monde. C'est ça l'idée que Leslie Newbegin disons, redéveloppe, qui d'ailleurs est tout simplement basée sur le fait que tout chrétien doit être sel et lumière dans ce monde. Pour nous tous, c'est une évidence, puisqu'on connaît tous ce verset, mais comment faire ? Comment revoir notre mission ? Parce que, voyez-vous, la manière plus simple, c'est de faire comme nos pères, nos grands-pères, et voilà, on est en mission, on est en action missionnaire. Donc là, c'est d'être missionnel. Alors, je vais prendre un deuxième personnage qui aussi nous donne des pistes sur cette façon d'être sel et lumière dans le monde. C'est le docteur David Smith. Alors, lui, c'est un Écossais. Il a étudié à Southwell Bible College avant de devenir pasteur au Chapel, à Leyden Chapel à Cambridge et co-directeur de Whitfield Institute à Oxford. Ses préoccupations sont axées sur l'avenir de la mission dans un monde religieusement pluriel. L'Angleterre, comme la France, hein, a énormément de religions. Elle a même commencé avant nous, avec bien sûr les colonies indiennes, etc., où ils sont remplis de toutes sortes de religions également dans leur pays. Donc les travaux de David, ces dernières années, dont on bénéficie ces ouvrages qu'il écrit, sont concernés sur le défi posé par l'urbanisation croissante. C'est un deuxième volet de ce qui se passe dans notre génération. D'une part, la déchristianisation et l'urbanisation. C'est-à-dire, il y a 50 ans, en France, il y avait 80% de paysans. Aujourd'hui, je ne sais plus combien ils sont, mais ils sont quelques pourcents de paysans, à cause bien sûr des tracteurs, à cause de toute la mécanisation qui s'est développée. Et les gens viennent dans les villes pour trouver du travail. Vous allez en Corrèze, c'est super pour passer les vacances, mais dans l'année, il y a très peu de monde. Hein, quand vous allez dans des endroits qu'on aime bien, le Périgord, hein, vous avez des très belles maisons, mais voilà, elles sont fermées l'année et ouvertes l'été. Parce qu'il y a une urbanisation. Donc, il était préoccupé par cette urbanisation. Et son dernier livre, il s'appelle « Seeking a City with Foundations », celui qui est le plus connu, celui que j'ai mis là, c'est « Mission, la mission après la chrétienté », « After Christendom ». C'est une théologie pour un monde urbain. Donc il a développé une théologie pour savoir comment atteindre le monde urbain, les gens dans les villes, hein, dans lesquelles nous sommes. Et vous savez que le Grand Paris Seine-et-Oise, nous sommes une communauté urbaine, la plus grande de France, avec 405 000 habitants. Et David propose une vision de la ville centrée sur Dieu. Une vision qui peut fournir une nouvelle imagination et un espoir pour le siècle à venir. Et c'est ça qui m'a inspiré. Alors David Smith propose un engagement culturel. Alors cet engagement culturel, il s'appuie sur bien sûr l'aspect missionnel qui se rapporte à une valeur communément admise et développée au sein de l'Église, à savoir influencer la manière de fonctionner, de communiquer et de fonder la culture chrétienne comme une contre-culture. Donc l'idée, c'est que l'Église devienne une contre-culture. Pas contre, pour contrer la culture, mais une culture alternative à la culture actuelle, qui est une culture déchristianisée, une culture athée, une culture sans Dieu, etc. Mais de développer une culture qui va permettre aux gens du monde de voir qu'on vit autrement, mais qu'on ne vit pas dans un blocos. Ce que les églises ont tendance à développer des sous-cultures, de communautaristes, et qui sont simplement montrés du doigt en disant, voilà, bon, ils sont différents, ils sont étranges, machin, etc., mais ils ne font pas partie du monde. Alors, cette façon de voir, cette façon d'approcher les choses, elle s'impose à nous depuis que la déchristianisation est galopante. Je l'ai développé tout à l'heure. Et David Smith écrit donc sur la missiologie en Occident, qui devrait être un engagement culturel, non pas un engagement géographique, c'est-à-dire on envoie quelqu'un, ou alors à l'autre bout du monde pour être missionnaire, hein, voilà, y a des gens qui se lèvent dans l'église, on les envoie, ou alors en Afrique, en Amérique du Sud, ils se lèvent et ils envoient, aux États-Unis, ils envoient des missionnaires. Voilà, c'est pas ça, c'est de définir un engagement culturel qui doit dépasser trois frontières. Alors ces trois frontières qu'il évoque, c'est un... la frontière de la sécularisation. Vous savez que séculier veut dire le siècle présent. Et pour ceux qui ont suivi la théologie de l'Ade, ils savent que, eh bien, il y a le siècle présent et le siècle à venir. Il y a deux siècles qui se chevauchent, qui vivent en même temps, qui en parallèle. Mais nous sommes dans les deux siècles. Nous sommes dans le siècle présent et dans le siècle à venir. Nous avons la tête au ciel et les pieds sur terre. Donc dans cette frontière de la sécularisation, Dieu et la religion n'ont aucune place dans les discussions de la sphère publique. Donc ça, c'est un premier élément, et ce n'est pas propre à la France maintenant, puisque c'est vrai un peu dans tout l'Occident. La deuxième frontière qu'il faut dépasser pour devenir une église missionnelle, c'est la pluralisation. Alors pluralisation, c'est que beaucoup ne croient plus en l'existence d'une vérité absolue, mais pense que la vérité est plurielle. Tellement plurielle qu'avec les réseaux sociaux, il y en a qui pensent que leur vérité est la seule. Donc chacun a une opinion qui devient vérité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, eh bien, pour les autorités, j'aimerais pas être à leur place, parce que voilà, l'autorité... chacun est son autorité. Donc vous ne pouvez plus tellement faire du commun, puisque chacun considère que c'est sa vérité qu'il fabrique, grâce à Internet d'ailleurs, peut fabriquer sa vérité. Donc voilà, c'est un autre défi. C'est que maintenant, c'est un fait, la vérité devient plurielle. Et la troisième frontière qu'il définit dans ses livres, c'est la globalisation. C'est-à-dire que mes voisins, vos voisins, mon voisin, nos voisins, peuvent être culturellement différents de moi. Et vous regardez déjà dans l'Église, on a énormément de cultures différentes. Et ça pose des problèmes, même dans l'Église. Et pourquoi ? Parce que dans une Église, on est supposé quitter sa culture et adopter la culture du royaume, mais ce n'est pas si simple que ça. C'est facile à dire, mais ce n'est pas simple que ça. Parce que tous, nous voyons, et il y a des choses bonnes dans nos cultures, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'elles doivent être secondaires, et le royaume avant. Et ça, ce n'est pas évident du tout. Pourquoi ? Parce que nous sommes encore dans la chair. Et la chair, eh bien, reste attachée à la culture naturelle qui nous a été programmée depuis notre enfance. Donc, non seulement dans l'Église, mais surtout dans le monde, eh bien, cette globalisation est tout à fait présente. Par conséquent, bien que l'endroit où nous vivons ne constitue pas un nouveau territoire pour l'Évangile, nous nous retrouvons à la frontière d'un champ de mission idéologique. C'est plus un champ de mission géographique, idéologique. Et nombre de personnes autour de nous n'accordent aucune place à Jésus dans leur vision du monde. Il se peut qu'ils aient entendu parler de lui, mais n'ont jamais véritablement entendu l'Évangile. Et ils l'ont encore moins compris. Michel, qui a fait 25 ans de culture biblique à Notre-Dame, hein, qui est une école catholique, eh bien, elle avait les cinquièmes, et la plupart ne connaissaient absolument pas la Bible. Elle apprenait la culture biblique, mais ils étaient au même niveau que les musulmans, les petits catholiques ou autres, etc. Ça paraît effarant, mais c'est comme ça. Et d'ailleurs, les profs d'université se plaignent aussi que les étudiants ne connaissent pas la Bible, parce que toute notre culture, hein, qui est basée sur des chrétiens, eh bien, que ce soit dans le monde artistique, musical et autres, etc., si vous ne connaissez pas la Bible, vous êtes perdus. Donc, vous voyez, ça va très loin dans le constat qu'aujourd'hui, eh bien, on est dans un monde païen. Nombre de personnes autour de nous n'accordent aucune place à Jésus. Et il se peut que le véritable évangile ne soit pas du tout connu ni compris. Et toute notre vie doit être centrée sur la mission. C'est pour ça que l'Église missionnelle est un nouveau paradigme, une nouvelle vision du monde, qui est dire, c'est pas juste une mission, parce que dans notre société actuelle, vous voyez, mais ma propre mère, qui était très pratiquante, chrétienne, engagée, pas juste bigote, eh bien, elle a dit à mes belles-filles, donc à ma femme, et puis à celle de mes frères, elle a dit, vous avez beaucoup plus de difficultés que moi, que nous, à élever les enfants. C'est beaucoup plus difficile pour vous, je vous admire, parce que nous, quand on redressait un enfant, quand on agissait d'une certaine manière, eh bien, tout le monde était pratiquement d'accord, à part quelqu'un. Alors que maintenant, vous ne pouvez plus toucher un enfant, vous ne pouvez plus corriger un enfant, vous ne pouvez plus, voilà. Donc c'est extrêmement compliqué. Et du coup, les parents démissionnent, parce qu'à la limite, ils ont même des procès. Hein, bon, je vois Chimène qui hoche de la tête, ils ont passé par là. Ça devient aberrant, mais c'est comme ça. On ne va pas dénoncer quelque chose qui existe, il faut prendre les mesures. Et la mesure, c'est d'être missionnel. Alors, je vous invite d'ailleurs, pendant ces vacances, à vous intéresser à ça. Bon, il se trouve que là, ce n'est pas traduit, donc il faut lire en anglais. Ces deux auteurs. Alors, je vais passer très vite, parce que je n'ai pas le temps ce matin, sur des valeurs fondamentales d'une église missionnelle, pour que vous voyez un peu la différence entre une église classique et une église missionnelle. C'est un mouvement qui s'appelle Acte 29. Vous savez qu'il n'y a que 28 chapitres dans les Actes. Donc, ils pensent écrire un nouveau chapitre, Acte 29. Donc, c'est le titre du mouvement. Qui ont adopté 5 valeurs pour leur mouvement missionnel. La centralité évangélique dans toute la vie. La souveraineté de Dieu pour sauver les pécheurs, l'œuvre du Saint-Esprit pour la vie et le ministère, l'égalité des hommes et des femmes et le principe du serviteur leadership, et l'Église locale comme stratégie principale de la mission de Dieu. Et moi j'aime bien parce que justement on revient à l'appel que vous avez écrit, qui contient justement cette notion d'être ce sel et lumière dans la société, dans le monde, et que ça passe par l'Église locale. C'est-à-dire l'Église locale a toute sa valeur, et donc il y a un rôle de l'Église locale dans cet aspect missionnel, pas uniquement nous qui devons être missionnels, mais aussi l'Église qui doit être missionnelle. Le deuxième réseau qui propage un peu cette notion missionnelle de l'Église, c'est le réseau Évangile et Culture, qui propose 12 valeurs missionnelles. Je vous les cite rapidement. C'est proclamer l'Évangile. Là, on est tous d'accord. Et Évangile 21, dans lequel nous sommes, est très adapté pour apporter des ressources dans ce cadre-là, faire des disciples, la Bible comme norme absolue. Je vous ai parlé plusieurs fois des déclarations de Chicago, qui sont des déclarations évangéliques de notre temps, qui ont duré 10 ans pour les élaborer, pour que la doctrine évangélique puisse être réadaptée, en tout cas réactualisée. Se voir différent du monde, se comporter différemment du monde, par l'amour réciproque, avoir un appel spécifique, c'est ce qu'on a, puisqu'on l'a réécrit, basé sur la réconciliation. La réconciliation, et là, le ministère de la Maison d'Élie est en première ligne, hein, pour parler de réconciliation. La redevabilité, on est redevable à une autorité. L'hospitalité, donc c'est l'aspect outgoing, hein, sociabilité vers l'extérieur, hein, donc pas tournée sur le nombril de l'église locale, mais ouverte. L'adoration, comme un style de vie, pas juste au culte ni au moving land, mais c'est un style de vie, d'adoration. Et le témoignage public, pas que privé. Alors là, ça pose un problème, parce que en France, partout, quand vous travaillez, on vous demande de ne pas parler de Jésus. Okay, voilà, dans tous les milieux, et vous êtes même pénalisé, peut-être gravement, si vous parlez, en particulier les enseignants, je vois qu'ils hochent la tête. Voilà, donc comment faire ? Si c'est une valeur de témoignage public, comme je l'ai dit tout à l'heure, Leslie Newbegin ou David Smith en parlent, que c'est le seul moyen aujourd'hui, c'est de rendre public l'Évangile. Donc, ça pose problème. Et moi, j'aime bien affronter les problèmes. Vous voyez, j'aime pas que ce soit eux qui m'affrontent. Moi, j'aime bien affronter les problèmes et les prendre à bras le corps. Et c'est ce que j'ai fait cette semaine où Dieu m'a parlé. Et l'Église n'est pas le royaume de Dieu dans sa totalité. Et ça aussi, c'est un problème. Il y a des chrétiens qui pensent que l'Église est le royaume. Non, ce n'est pas le royaume. C'est un instrument du royaume, mais ce n'est pas le royaume. Donc là, vous voyez, il y a 12 valeurs missionnelles. Je rappelle donc que l'Église est un signe du royaume à venir. Vous savez que dans le plan de rédemption de Christ, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il n'y a pas que l'Église. Ça passait par le peuple d'Israël, voilà, qui a été fondé avant l'Église, hein, au Mont Sinaï, qui d'ailleurs est revenu sur la scène en 1948, quand Dieu a rétabli Israël dans sa nation. Donc il y a Israël, il y a l'Église, et il y aura aussi le millénium. L'Église n'est pas une fin en soi. C'est signe du royaume à venir, mais ne le fait pas advenir. Là, on tombe sur la nouvelle réforme apostolique, et le faire advenir, c'est une erreur théologique, mais il ne faut pas tomber là-dedans. L'Église reste un instrument entre les mains de Dieu, et elle met à sa disposition, elle se met à la disposition du Seigneur pour le glorifier. Alors, je pense personnellement, et c'est la conviction que le Seigneur m'a donnée cette semaine à la lecture de cet appel, que Dieu considère que l'EPEA peut devenir leader d'une contre-culture dans le Grand Paris Seine-et-Oise. Grand Paris Seine-et-Oise, c'est la nouvelle structure que l'autorité de notre nation a adopté avec les régions, avec les communautés urbaines. Et donc, nous sommes regroupés en... Il y a 6 intercommunalités qui ont été regroupées pour former le Grand Paris Seine-et-Oise qui va de Conflans-Sainte-Honorine jusqu'avant Rosny. Je crois que Rosny n'est pas dedans. C'est ça, Rosny? Toi, tu fais partie de Rosny, non? Rosny est dedans. Ah, Bonnières. Voilà. Je savais qu'il y en avait un qui était sorti. Bon, Rosny. Bon, de son Rosny, c'est après une Mante. Hein. Donc, de Conflans à Rosny, qui compose plus de 405 000 habitants, c'est une ville. C'est une grande agglomération urbaine. Voilà, c'est ce qu'on appelle. Et comme on a parlé tout à l'heure d'une théologie urbaine, d'une réflexion urbaine de la missionologie, vous voyez, ça nous concerne, cette réflexion théologique qui a été faite. Donc, je pense, c'est ma conviction, que le Seigneur, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, enfin à partir de maintenant, considère que l'EPEA peut devenir missionnel, peut devenir leader d'une contre-culture dans ce Grand Paris Seine-et-Oise. Alors pour moi, je vous l'ai toujours dit, mais là ça confirme une fois de plus ce que le Seigneur m'avait prophétiquement montré, c'est que le Grand Paris Seine-et-Oise, le centre du gouvernement se trouve à Élisabethville. Pas Aubergenville, Élisabethville, juste à côté. Juste à côté de... Pardon. Juste... Décidément, je vais me battre avec les micros. Juste à côté de Cogidis, hein. Voilà, ils ont construit là un grand bâtiment qui est une super mairie, si vous voulez, hein, d'une communauté urbaine. Et c'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Parce que Élisabethville, c'est le barycentre géographique de cette communauté urbaine. Et puis en plus, il y a de la place, c'est accessible par l'autoroute, par le train, etc. Voilà, bon, je ferme la parenthèse, mais Dieu a considéré, avec cet appel qui a été reformulé, que nous pouvons développer une contre-culture en devenant une église missionnaire. Alors, je m'aperçois, là c'est un constat, que on a déjà anticipé cet appel. Vous voyez, donc, de toute façon, quand Dieu fait quelque chose, il le fait bien. Hein. C'est-à-dire que c'est lui qui dirige. Hein. Dans cette église, c'est Christ qui doit diriger et qui doit continuer à diriger. Alors, comment est-ce qu'il a déjà dirigé les projets? Eh bien, tout simplement parce que Maggie s'est levée, alors qu'on avait beaucoup de mal à trouver quelqu'un, c'était d'abord Tom, ensuite Faliana, etc. Et Maggie va quitter son emploi, elle a donné sa démission, avec un bon emploi, bien rémunéré, avec une sécurité, va quitter son emploi pour s'engager dans un engagement culturel dans l'économie. L'économie sociale et solidaire qui est basée sur la BIM, qui est développée par Charles Gide au 19e siècle, qui a été reprise, etc., qui est une alternative au capitalisme néolibéral et au fascisme qui aujourd'hui naissent un peu partout. Donc vous voyez, c'est une alternative qui est basée sur la Bible, sur l'aspect jubilaire de cette économie qui se trouve dans l'Ancien Testament. Le deuxième projet, c'est l'ordonnance de nomination de Colette aux fonctions de conciliateur de justice au tribunal de justice de Paris. Elle-même va en parler à la rentrée, pour qu'on prie pour elle. Elle m'a envoyé cet ordonnancement officiel. Donc c'est un engagement dans le domaine de la justice sur Paris lui-même. Et elle a demandé expressément Paris et pas sa couronne. Et il y avait très peu de postes et elle a été nommée. Donc, à ce titre-là, pour être celle et lumière dans le domaine de la justice, à côté des juges. Je considère que les rencontres de femmes dirigées par Chimène, qui mènent à des actions pour dynamiser l'Église, qui est aussi orientée vers des relations de voisinage, est aussi un élément de cette orientation missionnelle. La maison de prière pour toutes les nations va récapituler tout ça. On a eu cette vision en 1990, quand on a reçu ce bâtiment-là. Et vous voyez, c'est 30 ans qu'on n'a pas pu le faire pour différentes raisons. D'ailleurs, administrativement, on n'avait pas le droit de faire quoi que ce soit dans le sous-sol. On aurait dû le combler de sable pour pas l'utiliser. Et la persévérance a fait, et Dieu a conduit les choses, que au moment où on a redéposé un permis pour accepter les handicapés avec l'ascenseur, etc., eh bien, voilà, on a eu l'idée, le Seigneur nous a donné l'idée, de demander l'utilisation du sous-sol, et c'est devenu réalité. Sauf que c'est pour l'associatif et pas pour le public, mais n'empêche qu'on a le droit officiel de l'utiliser, et on va l'utiliser en partie avec la chapelle de prière, qui va justement servir à soutenir par la prière tout cet aspect missionnel, et qui est ouvert à toutes les dénominations des chrétiens de la région. L'engagement dans les conseils municipaux dans nos cités. C'est vrai que Michel a été engagé pendant 25 ans comme adjoint au maire, et là aujourd'hui c'est Florence qui est aussi nommée adjoint au maire de la même ville que Michel. Et c'est pas un hasard, hein. C'est que le Seigneur veut qu'on soit aussi engagé justement dans la société pour être sel et lumière et être au cœur des échanges, des relations, etc. Donc dans la politique locale. Hélène aussi, d'ailleurs, est aussi dans le conseil municipal, peut-être d'autres que je ne connais pas. Mais voilà, c'est un exemple aussi d'engagement missionnel. L'engagement dans le monde de l'entreprise, bon, je cite Jérôme, mais aussi Olivier, qui est très engagé à Zenica, hein, qui n'est pas seulement dans le domaine de l'informatique, mais il fait passer les messages, tous les nouveaux qui passent, d'ailleurs c'est par lui qu'ils passent. Olivier, quand il était embauché, ils étaient 10, maintenant ils sont 500, plus de 500, en l'espace de combien d'années? 20 ans? 30 ans? Non. Combien? 12 ans. 12 ans, on passe de 10 à 500. Et on tous passé par les mains d'Olivier, avec voilà, cet aspect humain, mais aussi chrétien, parce que je pose souvent la question à Olivier de son engagement spirituel. Donc ça, c'est juste quelques exemples de ce qui existe déjà. Et le Seigneur m'a donné une nouvelle mission, c'est créer le GEPID SEO. Alors ça, c'est tout nouveau, c'est cette semaine que le Seigneur m'a parlé de ça. Donc, créer le GEPID, c'est quoi le GEPID? Eh bien, je vais vous le décrire, le GEPID SEO. Eh bien, c'est un nouveau projet. Un nouveau projet. Donc, vous voyez, ceux qui pensaient que j'étais en retraite, ça ne sera pas le cas. Il y a toute une activité qui m'attend. Le GEPID, c'est une génération de projets innovants et dynamiques. Ou alors le Grand Paris d'innovation durable en Seine-et-Oise. Sous-entendu par dynamique, le dynamos du Saint-Esprit. Pour être sel et lumière avec l'évangile du royaume dans la société du XXIe siècle au sein de notre communauté urbaine seine-et-oise. Donc voilà la mission que le Seigneur m'a donnée cette semaine. Le GEPID, c'est une association porteuse de projets missionnels, une génération de projets innovants et dynamiques dans le GPSO, donc le Grand Paris Seine-et-Oise. Nous, c'est le Grand Paris innovant et dynamique. C'est une création d'une structure porteuse de projets qui impactera la communauté urbaine du GPSO avec les valeurs de l'évangile du royaume. Elle se veut être une véritable pépinière de contre-culture qui consiste au défi qui constitue un défi au sécularisme de cette génération. Et cette association, qui sera loi 1901, sera ouverte à d'autres chrétiens des églises de la région. C'est-à-dire, c'est pas juste nous sommes porteurs, mais cette association accueillera d'autres chrétiens de la région. Et elle cherche à accorder à Jésus la centralité qui lui revient dans les domaines de la vie culturelle pour être sel et lumière au sein de ce Grand Paris, de cette communauté urbaine GPSO. Un des projets immédiats, c'est la coopérative d'activité et d'emploi, la CAE, qui sera dirigée par Maggie, en lien étroit avec Coop Connexion de Lens, Luc Maroni, qui a commencé en 2014, donc il y a près de 7 ans, dans la communauté urbaine de Lens. Alors, j'ai deux propositions à vous partager. Une réflexion de John Stott. Qui connaît John Stott? Très peu. C'était déjà le chapelain de la reine d'Angleterre. C'était un homme extrêmement évangélique à tout point de vue en Angleterre, très connu, théologien, qui a impacté énormément. Il est à l'initiative d'Évangile 21, qui, dans lequel nous faisons partie, et qui d'ailleurs a un peu son centre à l'IBG, là où vient Pierre-André. Il nous propose de sortir du pessimisme de la culture évangélique. La culture évangélique est pessimiste. Alors, je vais vous lire sa proposition. Les chrétiens ont la force de la solidarité de groupe, la force d'une minorité consacrée. Selon le sociologue américain Robert Beller de l'Université de Princeton, voilà ce qu'il dit. Nous ne devrions pas sous-estimer l'importance de petits groupes qui véhiculent la vision d'un monde juste et amical. La qualité de toute une culture peut changer parce que 2% d'une population affiche une vision nouvelle. Alors 2%, Il faudrait qu'on soit 2% des 405 000 habitants que nous sommes. Il faut plusieurs chrétiens. On peut impacter la culture de notre communauté urbaine. Voilà comment Jésus a procédé, dit John Stott. Il a commencé avec un petit groupe, seulement de 12 personnes, consacrées. Le mot consacré est important. L'église missionnelle, si on n'est pas consacré, c'est pas la peine de commencer, ça ne marchera pas. Au bout de quelques années, les autorités romaines se sont mises à se plaindre, et se sont plaints, du fait que ces chrétiens mettaient le monde sens dessus, dessous. Nous avons grandement besoin, aujourd'hui, de groupes chrétiens engagés les uns à l'endroit des autres, engagés pour une vision de la justice et une vision pour Christ. Il y a juste un exemple banal qu'ils ont fait, l'église primitive, au temps des Romains. À l'époque, ils n'enterraient pas les morts, ils les laissaient comme ça mourir. Eh bien, les chrétiens ont décidé d'enterrer les morts, faire les cimetières. C'est les premiers à vouloir créer des cimetières, pas uniquement pour eux, mais pour la société. Et tout plein d'exemples comme ça, où ils ont impacté cette société parce que, ils ont la vision de la dignité humaine a impacté la Rome de l'époque. Alors voilà ce qu'il propose, John Stott, de tels groupes, donc des groupes comme le GEPID, vont prier ensemble, vont réfléchir ensemble, vont concevoir des projets politiques ensemble, travailler ensemble au bien de la société. Souhaitez-vous que la vie de votre pays plaise davantage à Dieu, pose-t-il comme question. Avez-vous la vision d'une nouvelle sainteté, d'une nouvelle justice, d'une nouvelle liberté, d'une nouvelle équité, d'une nouvelle compassion? Souhaitez-vous vous repentir du pessimisme de la sous-culture chrétienne? Voulez-vous réaffirmer votre confiance dans la puissance de Dieu, dans la force de la prière, dans la force de la vérité, dans l'exemple et l'engagement de groupe et dans l'évangile? Offrez-vous à Dieu comme des instruments entre ses mains, comme sel et lumière dans notre société. L'Église peut avoir une influence énorme en faveur du bien dans tous les pays de la terre, pour autant qu'elle se consacre totalement à Jésus-Christ. Laissons-nous nous donner à lui, lui qui s'est donné lui-même pour nous. Voilà l'interpellation de Johnson. Le deuxième que je prendrai, c'est par Sir Chris, bon, qui a fondé un site qui s'appelle CIUA, il y a un mot hébreu qui signifie aide-secours, qui met l'importance sur la dynamis, la puissance du Saint-Esprit, et nous qui sommes charismatiques, nous devrions être sensibles à cet appel. La promesse de Christ dans Acte 1:8, c'est « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous ». Mais pourquoi faire ? Est-ce que c'est pour nous ou c'est pour le monde qui nous entoure? Bien, cette puissance, c'est une puissance, bien sûr, pour faire des miracles, etc., mais aussi pour être témoin dans ce monde. Je vous fais grâce de la lecture parce que je n'ai pas le temps, mais il cite 2 Corinthiens 3:5. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes, notre capacité au contraire vient de Dieu. Et c'est parce que le Seigneur a mis en nous le Saint-Esprit et nous a donné le Saint-Esprit au milieu de l'Église que nous pouvons être, que nous pouvons être cette Église missionnelle. Alors, quelques exemples que le GEPID va développer, si vous voulez, dans son histoire, hein, puisqu'elle, je vais la créer à la rentrée. Avec toutes les personnes qui veulent bien rejoindre cette association. Voilà, elle va porter, bien sûr, en premier l'économie, au travers de la CAE, qui sera portée par Maggie, cette économie va créer des emplois, avec des chrétiens qui seront dans le conseil d'administration à 90%, pour orienter, réorienter les bénéfices de cette coopérative dans un sens chrétien et dans un sens qui va toucher effectivement cette région. C'est Maggie elle-même qui prépare une présentation qu'elle va faire à la rentrée sur la vision qu'elle portait aussi sur ce point. La culture, il faut aussi impacter la culture. Alors là, ça fait des années qu'on évoque des expositions à thème, et Luc Maroni en a fait pas mal dans sa région. C'est des thèmes qui, d'actualité, hein, on peut faire un thème qui touche les gens aujourd'hui, et ça, il faut le créer. Donc, il faut que ce GEPID, les gens se réunissent pour dire qu'est-ce qu'on fait comme thème qui va porter, et pas forcément dans l'église, mais que ce soit dans maison de quartier ou ailleurs, etc. Mais qu'on apporte, à partir de là, un élément culturel. Le site sur le Petit Prince, là où est engagée Hélène, c'est un site remarquable qui, justement, montre l'approche pédagogique de cette façon d'être missionnel au niveau de l'éducation des enfants, etc. Je pense aussi à Mathurin Cordier, mais surtout à celui qui est en Alsace, là, Baron de la Roche. Baron de la Roche, c'est un pasteur du 19e siècle qui a révolutionné son époque avec l'école, qui était engagée non seulement dans l'école, mais dans les foins, dans la paysannerie, etc. Enfin, si vous avez l'occasion de voir ce musée, on était avec les enfants, c'était passionnant. Voilà, c'est un exemple vraiment d'un engagement missionnel. Et le Petit Prince est un peu dans cette optique-là. Les loisirs. Je sais qu'Olivier a beaucoup de jeux, des choses comme ça. Voilà, on peut très bien développer des relations familiales et conjugales. Hein. Olivier a parlé de ce séminaire et d'autres qu'on peut faire dans la région. Les jeux éducatifs, hein, qui peuvent aussi être un élément de transmission. Je sais qu'à une époque ici, il y avait des matchs de foot qui s'organisaient et Antoine Rollet, il disait « Ouais, on n'est pas assez, mais on va jouer avec des jeunes qui traînent, là. » Hop, il faisait des matchs de foot, et puis prier avant, il témoignait. Vous voyez, ça, c'est un engagement missionnel. Hein, pas tourner vers les autres. La formation. La formation peut être aussi un élément dynamique de transmission de valeurs, etc., etc. Voilà, je vais terminer là-dessus en priant, en demandant au Seigneur de nous conduire dans la démarche de cette nouvelle approche d'évangélisation missionnelle. Et que je vous dirai plus à la rentrée, pour tous ceux qui veulent rentrer dans cette association, qui émane de l'Église, mais qui aura son propre fonctionnement, puisqu'elle sera aussi ouverte à toutes les autres églises de la région. Et la communication, je la ferai dans les autres églises de la même manière, pour fédérer dans cette communauté GPSO qui va dépasser le Mantois, puisqu'il va toucher Poissy. Et c'est intéressant parce que le Seigneur ne fait pas les choses à moitié. La cause est reprise par les Coffinets, qui sont actuellement pasteurs à Cergy et cherche le nom, Saint-Germain, voilà, et qui sont des très grands amis du pasteur de Mantes, Arnaud. Voilà, ce sont des protestants évangéliques très engagés, donc c'est pas le hasard. Donc on pourra travailler ensemble, et puis Samuel et Cathy sont déjà dans cette mouvance avec eux. Donc vous voyez, tout ça, ça a du sens. Ça a du sens. Et ça permettra de faire des choses pour être une contre-culture, une culture qui va impacter la société. Et on peut être reconnaissant que le Seigneur considère que l'Église d'Aubergenville peut être leader dans ce domaine. Et c'est un privilège, mais aussi une responsabilité. Prions. Seigneur, c'est vrai que nous ne voulons pas être passifs par rapport à ce qui se passe autour de nous. Regardez simplement le christianisme qui disparaît au fur et à mesure que le temps avance. Non, nous voulons être, Seigneur, un élément actif, un peu comme le levain dans la pâte, un peu qui représente pas grand-chose au niveau pourcentage et qui pourtant va faire monter la pâte. C'est l'exemple que tu donnais aussi dans ta parole. Eh bien, Seigneur, que nous puissions être ce levain, que nous puissions être cette église missionnelle, à laquelle tu nous appelles, pour que, Seigneur, nous puissions voir vraiment cette communauté sénéoise, eh bien, être sens dessus-dessous par l'évangile du royaume. Seigneur, donne à chacun, pendant cet été, eh bien, de réfléchir à cela, de se placer devant toi, Seigneur, pour sortir de la passivité et entrer dans une proactivité avec le Saint-Esprit. Nous te prions, Seigneur, dans le nom précieux de Jésus. Amen.